à notre intervenant suivant, Carlos Sancho González de l'OCDE, de bien vouloir prendre place au pupitre pour sa présentation.
Merci.
Donc le sujet qui va être abordé par Carlos, c'est l'intégration des learning analytics dans la nouvelle génération de systèmes d'information longitudinaux. Pour Carlos.
Merci. Bonjour à tous. En fait, je vais m'exprimer en français, mais ce n'est pas ma langue maternelle. Donc je vous prie d'abord de m'excuser du fort accent espagnol. Les présentations ont pourtant été rédigées en anglais. Donc le texte reste en anglais. Mais bon, c'est en français. Donc je m'appelle Carlos González Sancho. Je travaille pour l'OCDE. Pour les CERI, les Centres pour la Recherche et l'Innovation en Éducation, ici à Paris. Pour nous, il faudra dire d'abord que le Learning Analytics n'a pas été ou passe encore une ligne de travail prioritaire. Par contre, ça garde, je pense, une relation très très proche, très forte avec notre travail sur les systèmes d'information. Donc c'est ça que je vais présenter aujourd'hui, un peu quelles sont les connexions entre ces deux domaines. Pour un peu les cadres conceptuels, on va dire comment est-ce qu'on regarde les sujets de l'innovation en éducation. On les regarde comme un écosystème où il y a quatre piliers principaux. Dont la technologie, un des piliers, la partie supérieure. On regarde aussi comment est-ce que ça a des interactions avec la recherche et le développement, l'organisation au niveau du système. On parle ici le cadre de, par exemple, les politiques d'évaluation, les politiques curriculaires, et aussi l'organisation au niveau des écoles, c'est-à-dire les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Donc, notre travail sur les systèmes d'information, c'est une façon de s'approcher ou de regarder ces piliers de la technologie. Voilà, on parle souvent d'autres applications technologiques, mais on pense que l'analyse des données, et voilà, ça fait partie des applications technologiques qui peut fonctionner comme un moteur d'innovation dans le secteur éducatif. On parlera, et vous verrez aussi des travaux d'autres collègues de l'OCDE sur le Data-Driven Innovation. D'accord, l'idée ici, en général, c'est mieux utiliser la richesse, l'immense richesse des données qui existent dans les secteurs éducatifs, déjà, qui sont collectées de façon routinaire, de façon habituelle, et qui, des fois, qui ne sont pas exploitées suffisamment. Bon, je vais parler aussi de ce qu'on appelle le Big Administrative Data. Ce qui n'est pas forcément la même définition de big data qu'on utilise souvent, qui fait référence à des nouveaux contextes pour la création de données, des nouveaux types de données, hein, des nouveaux contextes, mais on a une petite tendance à oublier qu'encore il y a le big data, hein, les données administratives qui existent toujours. Et je pense que ça écoule un peu les commentaires de Joss. Et ici, on parle de transformer l'information pour les décisions, voilà, pour venir au service de meilleures décisions. Et ce n'est pas finalement une question technique, voilà, une question uniquement de technologie, mais comment est-ce que ça a une influence sur les relations, les acteurs du système. Quelques définitions très rapidement. Quand on parle des systèmes d'information, on fait référence à quoi? Bon, typiquement, ce sont les outils statistiques, technologiques qu'on utilise, les bases de données pour les données collectées par les écoles, les universités, etc. Hein, typiquement sur la performance des étudiants et les caractéristiques des établissements scolaires. Quand on parle des systèmes longitudinaux, on parle de systèmes qui ont la capacité de lier les données des élèves qui ont été collectées dans des différents points au fil du temps. Donc un système longitudinal, c'est un système qui a cette habilité de dessiner un parcours, les trajectoires individuelles de gens dans les systèmes éducatifs. Et on parle aussi de la nouvelle génération de systèmes d'information. Et là, on parle de l'intégration des systèmes statistiques, hein, qu'on utilise déjà dans pas mal de pays, avec tout le système, LMS, hein, le Learning Management Systems, Virtual Learning Environments, donc une intégration entre les données statistiques et toutes les ressources numériques, typiquement pour l'apprentissage et l'enseignement. Donc là, c'est ça qu'on voit, la nouvelle génération, et ça là où on voit le potentiel de Learning Analytics, hein, pour faire la connexion entre ceux-là. Très rapidement, quelles sont les opportunités des systèmes d'information? Bon, d'abord, un retour plus rapide aux acteurs, hein, et ça peut être les enseignants, ça peut être mais aussi les étudiants, les décideurs, etc. Donc, la vélocité du retour, la possibilité de mobiliser les connaissances qui existent, de mettre en contact les communautés des pratiques. L'opportunité, comme je disais, de connecter avec les ressources numériques qui existent, en ouvert ou pas en ouvert, mais bon, de faire une connexion entre les données et ces ressources-là. Et d'autres questions qui ont été déjà abordées, que je ne vais pas toucher, mais comme l'efficacité, l'efficience et les coûts administratifs, la possibilité de les réduire, et aussi de créer, on pense que c'est un aspect très important, créer une infrastructure pour la recherche en éducation, hein, beaucoup, beaucoup plus développée que de nos jours, grâce au système d'information intégré et longitudinal. Donc, quand on parle de Big Administrative Data, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, je vous présente l'exemple du système d'information de la province d'Ontario, dans le Canada. Donc, c'est un système pour une province qui compte à peu près 2 millions d'étudiants, à peu près 5000 écoles, hein. On parle déjà, et ça c'est pas les big data, les nouveaux big data, hein, qui sont générés dans l'environnement numérique, ça c'est justement les données qui viennent des écoles, d'accord. Donc l'année 2005, vous avez là les systèmes, voilà, dans la province ont généré déjà presque 8 millions de registres de données, hein, chaque année. Avec l'introduction du système ONSIS, hein, qui est le système d'information longitudinale de la province d'Ontario, on a passé 10 ans après à près de 110 millions de données collectées chaque année d'après les écoles de la province. Donc c'est vraiment une dimension, voilà, d'ordre de grandeur, on a fait un saut quantitatif énorme, donc on est dans les big data et on reste toujours dans l'administratif. Juste très rapidement aussi, vous verrez la proportion des pays de l'OCDE, les nombres d'étudiants qui sont dans des écoles où on fait une collecte systématique des données, c'est-à-dire une collecte pour la participation en classe, voilà, Et donc, vous voyez que de nos jours, une vaste majorité d'étudiants sont déjà dans des écoles qui s'engagent à cet exercice de collecte des données systématiques. Donc, ces données existent et on peut parler donc du Big Administrative Data. Je vais vous présenter très rapidement quelques sont. On a fait une enquête internationale sur les systèmes d'information, pour connaître un peu mieux quelles sont leurs capacités, leurs fonctionnalités présentes, et quelles sont aussi leurs limitations, hein, dans des systèmes qui existent dans des différents pays de l'OCDE. Donc on a collecté l'information pour 65 systèmes de 32 pays ou régions dans des pays. On a commencé en 2010 et on a collecté encore plus de données l'année dernière. Et on a aussi quelques informations très utiles de certains des systèmes qui existent au niveau des États américains, qui le collègue de la Data Quality Campaign nous a fourni. Donc on arrive à un échantillon important. Ce n'est pas nécessairement représentatif de tous les systèmes qui existent dans tous les pays, mais bon, c'est la première fois qu'on arrive à avoir une perspective comparative sur les systèmes. Donc, quelques sont des fonctionnalités les plus importantes. On commence par les identifiants, d'accord. Donc ça, c'est la possibilité que les systèmes connectent, comme je disais, les données collectées pour les mêmes personnes, pour les mêmes institutions, surtout pour les mêmes personnes, au fil du temps. Hein, c'est-à-dire que ici, comme on voit, il y a la plupart des systèmes, mais pas tous, hein, autour de 80% sont capables de connecter voilà, ces données hein, pour des différentes années. On voit que pour les enseignants, c'est juste une chasse autour de 60% des systèmes inclus aussi en formation niveau enseignant qui peut lier une année après l'autre. Et finalement, voilà, à peu près 40% des systèmes, la plupart concentrés dans les États-Unis, qui peuvent lier les données des étudiants et les données des enseignants. C'est-à-dire qu'on peut dire pour l'année présente ou l'année précédente, voilà, cet élève-là, et qu'est-ce qu'il a fait, avec quel enseignant il a été, il a eu des cours, etc. Donc, 40% des systèmes ont cette fonctionnalité, mais bon, le reste, pour l'instant, ça, c'est pas là. En termes des données, quelles sont les données qu'on trouve typiquement dans les systèmes d'information administratifs? Bon, vous verrez que ça reste typiquement toujours concentré sur les données qu'on va dire, les indicateurs les plus conventionnels sur la performance des étudiants, c'est-à-dire les indicateurs summative, on dit en anglais, qui sont à la fin de l'année, d'accord? Donc on a un indicateur de quel a été, voilà, on a passé les cours ou non, quel a été notre résultat, etc. Il y a très peu de... Bon, à peu près la moitié des systèmes ont d'informations sur la participation dans des cours spécifiques ou la participation, attendance, hein, pour aller au cours chaque jour. Et très peu de systèmes, moins d'un quart, incluent les types d'informations qu'on voudrait pour le learning analytics, c'est-à-dire des informations, par exemple, qui sont d'une granularité, d'abord, un niveau de détail, hein, qui sont suffisamment détaillés pour nous dire quelque chose d'une façon diagnostique et pas seulement summative, d'accord, pas seulement à la fin de l'année. On a aussi très peu d'informations pour les compétences qui ne sont pas les compétences cognitives traditionnelles, c'est-à-dire, on va dire, un quart ou un 20% des systèmes incluent quelques sortes d'informations sur des compétences comme la créativité, la collaboration, l'esprit critique, etc. Ça, c'est très peu, c'est pas vraiment présent dans les systèmes actuels. Information, éléments de données au niveau de cours. Donc, on verra que à peu près plus de la moitié des systèmes ont la capacité de lier les données des étudiants aux données des cours, c'est-à-dire dire ça a été généré dans quel cours spécifique. Et encore, comme vous verrez, très peu des systèmes contiennent des informations qui nous disent quelles ont été les pédagogies qu'on a essayé de mettre en place dans les cours, quelles sont les conditions d'instruction, c'est-à-dire c'était project-based learning, on a fait un apprentissage collaboratif, etc. Tout ça, c'est pour la plupart manquant des systèmes qu'on a aujourd'hui. Une autre dimension qu'on regarde à l'enquête, c'est quels sont les outils de comparaison. Et les outils, par exemple, ici, on compte ici les outils comme les dashboards, qu'on a mentionné déjà, pour la visualisation des données, pour l'existence des rapports que les systèmes génèrent hein, de façon automatique pour faciliter voilà, les retours de l'information. Donc, encore, voilà, un bon nombre de systèmes en quelque sorte d'outils qui nous permettent typiquement de faire des comparaisons entre les étudiants ou des comparaisons entre les établissements. Et on va dire un tiers des systèmes peuvent faire des prédictions, encore en connexion avec le Learning Analytics, faire des prédictions basées sur les données des étudiants ou faire des comparaisons entre les enseignants en fonction des données, des résultats des étudiants. Une autre dimension qui est cruciale, c'est la vélocité, la rapidité du retour. Si le retour, l'information arrive aux enseignants, on va dire par exemple quelques mois après les cours, voilà, que les cours soient terminés, c'est une information qui n'est pas vraiment utile. C'est la même chose pour les décideurs. Donc c'est vraiment important que les systèmes soient capables de faire élever un retour d'information dans un délai raisonnable. Ce qu'on trouve dans notre enquête, c'est que bon, il y a un bon nombre de systèmes qui met plus de 6 mois, par exemple, à mettre l'information disponible aux décideurs et aux enseignants. Il y a par contre un bon nombre de systèmes qui font en temps réel, on va dire en moins de 48 heures, Et d'autres qui mettent voilà, un mois, trois mois, quatre mois pour faire les retours aux utilisateurs du système. Et aussi, plus en connexion avec les Learning Analytics, quels sont les systèmes qui ont mis en place des mesures pour faciliter toujours les, comment dire, les compétences d'utilisation des données, donc utiliser les données pour l'instruction, pour les pratiques pédagogiques, qu'est-ce qu'on peut inférer, quel type d'informations, etc. Très peu des systèmes, 22%, vous savez, qui ont de liens aux plateformes de ressources éducatives numériques, hein, qui font une connexion directe en fonction de diagnostic, on va faire peut-être une recommandation d'une telle ressource. Et trop peu des systèmes, et pareil, qui ont des outils diagnostiques pour les enseignants. 14% des systèmes aujourd'hui. Donc, comme vous verrez, les systèmes ont pas mal de limitations de nos jours. On sait bien sûr que ça, c'est un peu l'avenir. On va donner des directions pour les 5-10 ans à venir. Quelle est la direction pour la nouvelle génération des systèmes? On a fait un peu de travail analytique sur l'enquête. Donc, on a fait une typologie de quatre types idéaux des systèmes. On a les systèmes qui s'utilisent plutôt pour la recherche et pour la production des rapports statistiques au niveau, on va dire, par exemple, au niveau du ministère. On a les systèmes qui dérivent de l'approche de e-government, c'est-à-dire de la collecte des données, l'utilisation de tous les services publics sur le numérique. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer très rapidement, vous donner deux exemples de deux types de systèmes, les systèmes pour l'amélioration de l'apprentissage, pour l'amélioration de la performance des écoles, et les systèmes experts, ou les systèmes où là, on fait l'intégration un peu plus directe des outils de Learning Analytics. Donc, voilà, les systèmes pour l'amélioration, typiquement, ce sont des systèmes qui donnent de l'information aux chefs d'établissement, et des fois aux enseignants, qui leur donnent des rapports assez détaillés sur quelle est la performance des étudiants, qui les permet de faire des comparaisons entre, par exemple, des écoles avec les mêmes caractéristiques, qui incorporent en quelque sorte des outils de visualisation, comme le dashboard, et qui typiquement ont une information assez détaillée, assez granulaire, et qui s'utilise dans certains pays. On a vu un projet européen, ça s'est fait aussi pas mal aux États-Unis, pour ce qu'on appelle les routines d'amélioration. Donc on regroupe les enseignants, on étudie ensemble quelles sont les données, donc ce sont des fois on parle de data teams, donc on fait une nouvelle pratique pour les enseignants, hein, d'analyse des données ensemble, décider quels sont les problèmes qu'on détecte, quelles sont les possibles solutions, etc. L'exemple que je vous présente, c'est le Race Online System en Angleterre. Donc vous voyez, par exemple, là, vous avez une liste de compétences, hein, ça c'est pour la lecture au niveau de K-Stage 2, donc c'est l'école primaire, si je ne me trompe pas, qui vous permet, par exemple, pour un étudiant de regarder, voilà, quels ont été les nombres de réponses correctes, comment est-ce que ça compare par rapport à la moyenne nationale ou régionale, etc. Et c'est un rapport qui est utile, qui peut être utile pour les chefs d'établissement ou pour l'enseignant. Finalement, on a aussi, voilà, on peut faire les rapports automatisés, d'accord, ça s'est produit de façon automatique au niveau de l'école, voilà, quelle est la distribution de résultats par différents groupes d'élèves, si c'est les garçons, les filles, voilà, les élèves qui ont des différents milieux socio-économiques. Donc, c'est déjà une utilisation de données qui va au niveau assez détaillé, qui permet un retour important, on croit, pour les pratiques d'amélioration. Peut-être le plus intéressant pour le séminaire aujourd'hui, c'est les systèmes, les Expert Data Systems, dont le but, c'est finalement de personnaliser les pratiques d'enseignement et d'apprentissage, avec un retour rapide et très détaillé encore sur les pratiques d'éducation. Donc, il y a aussi la fonctionnalité de faire les suggestions, de faire aussi les liens avec les les repositoires de ressources numériques et l'intégration de techniques de learning analytics qui font, hein, qui utilisent, qui se basent sur la richesse de données historiques qu'on a des élèves. D'accord ? Donc, on parle aussi de learning maps, comme Joss vient de dire. Quelle est typiquement l'architecture des connaissances dans un domaine particulier et comment est-ce que le résultat d'un élève particulier compare avec ça. Je vous présente l'exemple de New Classrooms. C'est une organisation qui a plusieurs écoles. On parle ici, ce n'est pas l'enseignement supérieur. Ici, c'est un exemple des écoles secondaires aux États-Unis, dans différentes villes, Chicago, New York, Washington. Et ça, c'est un programme pilote, un programme expérimental pour l'enseignement des mathématiques. Donc, vous voyez, ça, c'est le learning map, le knowledge map pour, voilà, pour les ratios et les numéros rationnels. Donc, voilà, ça, c'est l'architecture du domaine. Et comment est-ce qu'un élève particulier compare avec ça? Donc, vous voyez là, ils utilisent le concept de playlist. Quelles sont les compétences qui ont été déjà acquises par l'élève? Quelles sont les compétences qui nous manquent, hein, par rapport à ces knowledge maps. Et l'élève, dans les modèles, je n'ai pas tous les slides aujourd'hui, mais dans les écoles de New Classrooms, l'élève chaque jour arrive à l'école, regarde sur un écran, voilà, où est-ce que je suis, voilà, où est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai déjà complété de ces graphes, ces knowledge maps. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quelles seront les tâches? Quel type de groupe, quel type d'instruction est offert aujourd'hui? Et qui permet à l'élève de décider un peu le rythme aussi, le rythme d'apprentissage. Donc personnaliser l'expérience d'apprentissage. Il faut dire aussi important que chaque fois, chaque jour, de nouveaux données se génèrent et s'incorporent au système. Donc le système utilise tout ce qui existe, hein, l'historique des données. Mais aussi, à chaque jour, c'est plus riche, hein, grâce au retour aux nouveaux données qui sont générées. Donc, pour terminer, je veux dire que notre ligne de travail, là, à l'OCDE, sur les systèmes d'information, on essaye de guider un peu, voilà, de suivre quelle est l'évolution des données, des systèmes d'information. Et ce qu'on fait ici, c'est une comparaison de dimensions principales entre les systèmes, l'ancien système et le système qui existe toujours dans certains pays, et quelle serait la nouvelle génération. Donc, quelques des dimensions importantes ici. Donc, on veut passer de la production des indicateurs au niveau agrégé, ou avoir une information au niveau de l'individu. Hein, on veut aussi passer de la formation qui est des sections croisées, voilà, de juste une année, au passer en une perspective longitudinale, hein, la liaison des données au cours de temps. Très important aussi, on l'a vu dans notre enquête, passer de le data silos, c'est-à-dire l'information qui est dans des différents, qu'on garde dans des différents archives, etc., mais qui n'est pas connectée, à une intégration plus forte, et là l'interopérabilité qu'on va discuter aujourd'hui joue un rôle très important. On veut passer aussi de le fait que les données sont décontextualisées, les données existent un peu isolées, à une situation dans laquelle on peut faire des comparaisons, de benchmarking beaucoup plus précis, beaucoup plus riche. On veut passer aussi le retour au fin de l'année, un retour en temps réel, ça serait l'idéal, hein, pour la nouvelle génération de systèmes. On va aussi faire une transition de l'utilisation des données pour la production des rapports statistiques, hein, pour l'évaluation, etc., au niveau du système, à incorporer le learning analytics dans cette nouvelle génération, passer à la possibilité de suggérer des ressources, etc. Et aussi, une considération importante, on a vu dans notre enquête que la plupart des systèmes aujourd'hui restent toujours dans les mains des administrateurs, des décideurs politiques, des chefs d'établissement, etc. Mais rarement, on a mis ces outils dans les mains des enseignants, des étudiants et des familles. Donc, un potentiel énorme là-bas, mais on a des fois des outils très très sophistiqués, avec très très puissants, mais qui restent encore, qui n'ont pas... qui n'étaient pas mis dans la main d'un nombre plus large d'utilisateurs. Ce que nous considérons, c'est très important, c'est vrai que vraiment les outils servent à l'innovation en éducation. Donc voilà quelques remarques. Comme je vous disais, ce n'est pas peut-être si centré sur le Learning Analytics que d'autres présentations, mais je pense qu'il y a suffisamment de points de connexion. Et pour nous, voilà, écouter ce que vous avez à dire pour savoir comment est-ce qu'on peut mieux incorporer le Learning Analytics dans les systèmes d'information, au moins la nouvelle génération. Merci.
Merci beaucoup. Thank you.